Les juifs, chefs religieux, avaient demandé pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc, d'après eux, Jésus n'aurait jamais dû aller s'introduire et boire et manger avec les publicains. Ensuite, sur la question du jeûne, en Marc 2, 18, les juifs demandaient pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Là aussi, le Seigneur leur avait répondu. Et ça a été aussi un sujet de crispation. Et ça va crescendo. Le jour du sabbat, en Marc 2, 24, les pharisiens demandent toujours, voici pourquoi donc tes disciples, parce que les disciples avaient mangé des épis qu'ils mangeaient le jour du sabbat, hein, ils avaient arraché ça dans un champ, et d'après eux, ça ne devait pas se faire. Donc voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Et là, Jésus remet les pendules à l'heure. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et enfin, toujours à propos du sabbat, là, ça a été un complot, un piège tendu à Jésus. L'homme qui avait une main sèche, on l'a amené et on a regardé, on a examiné si Jésus allait guérir cet homme le jour du sabbat. Alors il a décelé et démasqué leur hypocrisie. Il l'a guéri. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, au chapitre 3, verset 6, hein, là où on s'était arrêté, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc, la crispation est à son comble quand on prend au chapitre 3, verset 7. Alors, normalement, il y a 35 versets dans ce chapitre 3. On va pas tous les lire parce que c'est très long. Alors, ce qu'on va faire, j'ai découpé en quatre parties. On va voir donc chaque partie de manière un tout petit peu indépendante. Nous allons donc examiner d'abord le chapitre 3, donc verset 7 au verset 12. Et donc, je vous distribue comme d'habitude les feuilles. En fait, c'est une trame. Il faut voir ça comme un support qui aide pour pouvoir suivre l'exposé. Voilà, donc c'est vraiment en tant que support qu'il faut le regarder. Donc, voilà ce que, Dieu voulant, nous allons voir. Alors, on ne verra peut-être pas tout, mais en tout cas, c'est en deux soirées, donc il y a une partie qui restera peut-être, on verra. On verra comment le Seigneur va conduire. Donc, voilà la trame qui va nous servir donc pour exposer ce chapitre 3. Et aussi une partie, mais ça on verra ça la prochaine fois, le début du chapitre 4. Donc, j'ai découpé en quatre parties. D'abord, la première partie, on va lire dans Marc chapitre 3, les versets 7 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 3, 7 à 12?
Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire tourner.
Voilà. Donc, en sortant de la synagogue, après cet épisode de l'homme avec la main sèche, Jésus se retire avec ses disciples vers la mer. Alors, la mer, c'est la mer de Galilée, hein, le lac de Tibériade. Et dans la Bible, la mer symbolise quelque chose. La mer symbolise souvent les nations païennes, les peuples qui sont souvent en révolte contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël. On peut le voir par exemple dans Ésaïe au chapitre 60. Versets 4 à 5. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe chapitre 60, versets 4 à 5?
Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Et tous arrive de loin et tes filles sont portées sur les bras. C'est ça alors que tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi.
Voilà. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations, donc il s'agit bien des nations, viendront à toi. En fait, ici, c'est une façon pour le Seigneur de dire, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, et Marc le souligne très très bien, je me tourne aussi vers les païens, vers les nations. Et tout de suite après, il nous est parlé d'une grande multitude qui se rassembla, non seulement venue de la Galilée, mais des territoires beaucoup plus lointains. Et nous allons voir ces différents territoires. Alors Marc donc signale, c'est l'image que je voulais vous montrer. Voilà. Donc Jésus se trouve au niveau du lac de Tibériade, là où convergent toutes les flèches. Et il y a une multitude qui vient de la Galilée, donc ce sont les plus proches, de Tyre et de Sidon, ce sont deux villes phéniciennes, hein, donc qui ne sont pas dans le territoire d'Israël, c'est des villes païennes. D'autres qui viennent de beaucoup plus loin, de l'Idumée, donc ici c'est le territoire qui est tout en bas là, en rouge. L'Idumée en fait, c'est une région donc qui s'étend au sud de la Judée et qui était habitée par les Édomites. Les Édomites sont les descendants de Ésaü. Ésaü qui est donc le frère jumeau de Jacob. Et vous voyez, il venait de très très loin. Alors là, on ne voit pas tellement l'échelle. Je crois qu'elle est en bas. Voilà, vous voyez l'échelle. C'est quand même, ça fait environ, on va dire, entre 150, à peu près 150 kilomètres. Et tout ça à pied, évidemment. À pied et des gens qui sont, beaucoup de gens qui sont malades. Donc, on peut calculer en gros qu'il mettait à peu près une semaine pour aller de l'Idumée jusqu'au lac de Tibériade. D'autres qui venaient de la Judée, d'autres qui venaient de Jérusalem, et d'autres qui venaient, il est dit, d'au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le territoire qui a appelé la Pérée, ici. Ce territoire qui était gouverné par la dynastie iduméenne de Hérode, hein. Et on connaît la dynastie d'Hérode, avec le tristement célèbre Hérode le Grand, celui qui a fait mourir tous les enfants juifs, qui a reçu les mages et qui a fait mourir tous les enfants juifs parce qu'il voulait faire mourir Jésus. Et d'autres qui venaient de Tyre et Sidon, comme on a dit, donc des païens vraiment, les villes phéniciennes, et tout ce monde convergeait vers Jésus pour trouver la guérison. Alors cette multitude nous fait penser à une autre multitude dans le livre l'Apocalypse. Laquelle? C'est la multitude qui est dans Apocalypse chapitre 7 verset 9. Donc si on va dans Apocalypse chapitre 7 verset 9, si quelqu'un peut lire.
Après ces choses, je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, de toute tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains.
Voilà, donc vous voyez ce que nous vivrons lorsque nous serons auprès du Seigneur, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Voilà en gros ce qui un préambule par rapport à ce qui se passe au lac de Tibériade, un préambule de ce que nous connaîtrons dans l'éternité. Ensuite, il est dit au verset 9 que Jésus se chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque pour ne pas être pressé par la foule. Et on pourrait se poser la question, tiens, c'est curieux, pourquoi Jésus, alors que les besoins sont tellement immenses, les gens se pressent autour de lui, parce que pourquoi? Parce que ceux qui les touchaient, ils guérissaient de leur maladie. Et justement, il y avait des malades partout. Alors, au lieu que Jésus reste avec les malades pour les guérir, pour qu'ils se fassent toucher, voilà qu'il prend la décision de s'éloigner de ces malades, être dans une petite barque, donc avoir une distance entre les malades et lui. il choisit de les enseigner d'abord. Et ça, pour nous, c'est une leçon. Alors, on verra environ 7 leçons dans tout ce qu'on va voir dans les deux rencontres. Et là, c'est une première leçon qui nous est donnée. C'est que même s'il y a des besoins qui peuvent parfois même être urgents, il faut que nous restions d'abord à l'écoute de Dieu pour savoir où, quand et comment faire face à ces besoins. Ne pas se précipiter sous prétexte qu'il y a des besoins pressants, ne pas se précipiter sans même consulter Dieu, sans même prier, sans même annoncer la parole de Dieu comme le fait Jésus, se précipiter pour faire face à ces besoins. Dieu d'abord. Cherchez la direction de Dieu avant toute chose, même quand le besoin se fait pressant. Et c'est ce que Jésus nous enseigne ici. Il prend une barque pour d'abord enseigner les gens avant de les guérir. L'enseignement de la parole de Dieu est prioritaire sur l'action d'une manière générale. En tout cas ici, c'est prioritaire sur l'action. Donc, Jésus se met dans la barque pour pouvoir enseigner. Et les personnes qui venaient pour être guéries commençaient d'abord par écouter la parole de Dieu. Et une fois qu'ils étaient nourris de la parole de Dieu, Jésus sortait de la barque. Et là, les gens qui s'avançaient et qui touchaient Jésus étaient guéris. Et là aussi, nous voyons qu'il y a, pour être guéri, il y a deux conditions minimales pour trouver la guérison en Jésus-Christ. La première condition, c'est d'abord de venir à Jésus. C'est sûr que tous les malades de toutes ces régions-là ne sont pas venus à Jésus. Mais même ceux qui étaient venus pour être guéris, il ne suffisait pas de venir, d'écouter Jésus et de repartir chez soi. Mais encore fallait-il toucher Jésus. Donc, nous voyons que pour la guérison du corps, il faut venir à Jésus et toucher Jésus. Et aussi pour la guérison de l'âme, il y a là aussi un parallèle. Il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas de rester chez soi d'abord. Il ne faut pas rester chez soi. Il faut d'abord venir à Jésus. Et une fois qu'on est venu à Jésus, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais encore faut-il toucher Jésus, c'est-à-dire encore faut-il croire. Toucher Jésus veut dire croire en Jésus. Prenez par exemple Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut lire?
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Voilà. Celui qui écoute ma parole, donc c'est le premier acte, et qui croit, donc qui touche Jésus, celui-là, il a la vie éternelle. Voilà, donc Jésus donne la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui et qui croient en lui, qui le touchent. Ensuite, nous voyons, alors là, Jésus guérissait les malades, et tout de suite, et ça on le remarque dans tout ce que Dieu fait, chaque fois que Dieu agit, le sous-monde, le diable, il réagit. Et là, le diable va réagir par l'intermédiaire des esprits impurs. Regardez ce que font les esprits impurs, les versets 11 et 12 de notre chapitre 3. Alors, si quelqu'un peut lire les versets 11 et 12, la réaction des démoniaques.
Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommanda très sévèrement de ne pas le faire connaître.
Alors là aussi, c'est vraiment très curieux. Voilà des personnes qui font la publicité de Jésus, qui disent, oui, tu es le Fils de Dieu. Au lieu d'applaudir, Jésus leur recommande sévèrement de ne pas le dévoiler. Pourquoi? Mais parce que Jésus n'avait pas besoin du témoignage des esprits impurs. Oui.
Je vais vous poser une question. Et ils étaient comment
Oui, en fait, c'était des gens qui étaient, on va dire, possédés d'esprits impurs, qui étaient animés, agités par les esprits impurs. Et ces gens-là déclaraient haut et fort, « Tu es le Fils de Dieu !» Jésus leur recommandait de se taire. Pourquoi? Et là, c'est une deuxième leçon que nous allons apprendre aussi. Jésus voulait décider lui-même quand et comment il se révélerait aux hommes. Ce n'est pas au diable, ce n'est pas aux esprits malins de faire la publicité, de faire le travail de Dieu. Parce que les esprits malins, justement, ils sont malins. En réalité, quand ils font la publicité de Jésus, ce n'est pas tout à fait gratuit. Qu'est-ce qu'ils espèrent? En fait, en publiant que Jésus était le Fils de Dieu, ils espéraient court-circuiter son œuvre en attirant sur lui une colère précoce des hommes religieux. Et oui, parce que ça, c'est de nature à mettre en colère les hommes religieux. Et donc, Jésus, dans son travail, serait contrecarré, court-circuité, si les chefs religieux l'attaquaient sur ce sujet-là. Et on a vu avec le complot qu'ils ont décidé de le mettre à mort avant qu'il ne puisse réaliser son œuvre. Donc, ce n'était pas tout à fait gratuit. Et ça, l'apôtre Paul et ses compagnons l'ont aussi expérimenté. Hein, si on va en acte 16, les versets 16 et 18. Regardez ce qui se passe avec les esprits démoniaques. Acte 16, versets 16 à 18.
Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle.
Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de faire l'évangélisation dans les villes, dans la ville de Pau. Et là, il y a une dame qui vous dit, ces hommes-là sont des gens qui sont envoyés par Dieu. Écoutez leur message. En tout cas, pour moi, ma réaction première, dire bravo madame, merci, continuez à faire notre publicité. C'est très bien ce que vous faites. Mais l'apôtre Paul et ses compagnons ne se sont pas laissés prendre. Justement, ils vont réagir. Paul réagit. Il discerne que derrière cette publicité, en fait, ce sont des esprits impurs. Et les esprits impurs n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de contrecarrer le plan de Dieu. Donc, quand ils font la publicité, ce n'est pas de manière, on va dire, gratuite. Non, il y a une idée qui se cache derrière. Et Paul a saisi l'idée. Il a chassé le démon. Mais regardez, tout de suite après, cela a provoqué une émeute. Et Paul et Silas ont été mis en prison. Vous rendez compte? En fait, les esprits malins, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que Paul et Silas réagissent. Cela a énervé les autorités locales. Ils ont tout de suite été mis en prison. Voilà. La publicité des esprits mauvais n'est pas gratuite. C'est notre leçon numéro 2. Ne recevons jamais, jamais, jamais le témoignage ou la louange qui vient des esprits mauvais. Notre deuxième leçon. Ensuite, donc voilà ce qui se passe avec les esprits démoniaques. Et on va voir que Jésus va appeler autour de lui ce que nous appelons les 12 apôtres. Nous allons donc continuer notre lecture dans Marc au chapitre 3, versets 13 à 24. Donc, continuons Marc 3, versets 13 à 20, ah, 21, pardon. Verset 13 à 21.
Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ».
Voilà, merci beaucoup. Jésus avait beaucoup de disciples. Et là, il va choisir un petit nombre de disciples, donc un cercle assez resserré autour de lui. Il va en choisir 12, auxquels il va donner le nom de apôtres. Apôtres, donc envoyés en avant, hein, littéralement. Il va donner le nom de apôtres. Et ce nouveau groupe, c'est celui qui servit de fondation, de fondement à l'Église. Mais avant de faire ce choix crucial, Jésus va passer toute une nuit dans la prière. Et ceci nous est révélé dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Allons dans Luc 6, 12 à 13.
Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres.
Voilà. Nous avons ici donc le Seigneur, avant de choisir les 12 apôtres, qui va passer toute une nuit dans la prière. Alors, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer toute une nuit à prier Dieu. Moi, ça m'est arrivé très, très rarement, peut-être une fois, et encore, ce n'est pas toute une nuit. Mais voilà, Jésus ici nous donne une troisième leçon, c'est que, notamment avant un choix crucial, parce que c'était quand même quelque chose de très, très important, le choix des 12 apôtres, il ne l'a pas fait comme ça au hasard. Avant un choix, un choix crucial, passons beaucoup plus de temps que d'habitude, passons beaucoup de temps dans la prière. Soyons vraiment au pied de Dieu, au pied du Seigneur, et demandons-lui la direction. Parce qu'il va en choisir 12, et on va voir comment ce choix a été fait. Et notamment comment l'un d'eux a été choisi. Et peut-être que le choix de ce dernier, hein, qui est appelé Judas, qui allait le livrer, a été peut-être un choix très compliqué à faire. Je ne sais pas. On n'est pas dans le conseil de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment ils se sont concertés en quelque sorte, comment Dieu s'est concerté, comment Dieu a-t-il fait pour choisir Judas? Alors, évidemment, nous savons que Dieu connaît toutes choses et que ses choix sont faits de toute éternité. Donc nous, en tant qu'humains, vraiment faisons ce que le Seigneur nous montre ici, c'est-à-dire passons du temps dans la présence de Dieu, quitte à prier toute une nuit, hein, même plus. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont jeûné, qui ont prié pour une question très cruciale, etc. Et ça, ce sont des habitudes qui malheureusement se perdent dans nos milieux. Hein, prier, vraiment jeûner, etc. Mais songeons-y, c'est très important de ne pas se précipiter à faire un choix qu'on va regretter plus tard. Donc, Jésus va choisir 12 apôtres. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier pour faire partie de ces 12-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il fallait démontrer comme particularité? Ben, on va voir qu'en fait, il n'en est rien. Ce n'était pas une question de talent. Regardez, par exemple, au chapitre 4 du livre des Actes. Et au verset 13, acte 4, 13, on va voir la qualification pour être apôtre. Qu'est-ce qu'il fallait voir comme qualification? Acte 4, 13.
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean,
ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Voilà. Pour être qualifié, homme du peuple sans instruction. C'est incroyable quand même. Moi, j'aurais demandé, bon, montre-moi ton CV. Tu viens d'où, quel a été ton institut biblique? Ah, tu t'es arrêté en deuxième année. Oh, non, tu n'es pas tellement qualifié. Je prendrais peut-être celui qui a une licence ou un doctorat. Ou... Mais non, c'était des hommes du peuple sans instruction. Voilà leur première qualification. Ensuite, leur deuxième qualification, nous trouvons donc dans Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, verset 70, il y a une qualification pour l'un d'eux en tout cas qui est très importante. Regardons sa qualification. Jean chapitre 6, verset 70.
Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon.
Voilà, c'est Jésus qui les a choisis. Donc, ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Et ici, il y a quelque chose de très étonnant. Il va même choisir, non pas un homme possédé d'un démon, et là c'est un mystère, l'un de vous est un démon. Ça veut dire que Judas était tellement, comment dire, faisait tellement corps avec Satan, qu'il est vraiment identifié, dès le départ, un démon. C'est très grave, hein, ça. Et ça, c'est un mystère. On va voir ça tout à l'heure. C'est vraiment un mystère. Donc, pour être qualifié, il n'y a pas besoin d'avoir... Bon, évidemment, ça aide. Ça aide d'avoir... Il faut faire des formations. Hein. Attention, on ne devient pas... Mais, je veux dire, dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Il peut choisir un érudit comme Paul. Paul était un érudit, hein. Ta grande intelligence t'a rendu fou, Paul, va s'écrier un certain roi. Mais il peut choisir aussi des hommes très très simples, comme l'apôtre Pierre, hein, Paul, Jean, etc. Des hommes très très simples. C'est Dieu, de toute manière, qui choisit. Il appela ce qu'il voulut. Donc, le libre arbitre de Dieu. Alors, dans quel but Jésus a-t-il choisi un cercle resserré de 12 apôtres? Mais il y a trois buts, trois objectifs qui nous sont donnés ici. Le premier objectif, on le trouve au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut relire le verset 14, donc du chapitre 3? Moi, la première partie du verset. Voilà. Pardon, excuse-moi. Pour les avoir avec lui. C'est-à-dire un cercle de 12 qui allait suivre de très près les instructions et l'enseignement, autant théorique que pratique, auprès de Jésus. Et ici, nous avons une quatrième leçon, qui est un principe fondamental. Il y a pour tout un chacun un temps de formation auprès de notre Seigneur. C'est le Seigneur qui choisit les moments pour que nous puissions entrer dans son service. Ce n'est pas à nous de décider, bon, maintenant je suis suffisamment grand, je suis suffisamment fort, voilà, maintenant je me lance dans le service. Non. D'abord, c'est Dieu qui nous appelle au service, c'est Dieu qui nous forme pendant le temps qu'il voudra. Ça peut être très, très court, mais ça peut être aussi long. Ce n'est pas à nous de choisir notre temps de formation. Pour les apôtres, ils se sont formés auprès du Seigneur pendant au moins 3 ans. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus rapide, hein, notamment les disciples qui ont été formés donc, le jour de la Pentecôte, etc. Donc, il y a un temps de formation aux côtés du Seigneur avant le service. Et c'est le Seigneur qui décide de la durée de ce temps. Ce n'est pas à nous d'allonger ou de raccourcir ce temps. Ensuite, deuxièmement, les envoyer prêcher. Il a choisi les 12 apôtres pour qu'il les envoie annoncer la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que le but principal du choix des apôtres est d'annoncer l'évangile de Dieu. Parce que Jésus est venu pour que tout homme sur cette planète puisse connaître la bonne nouvelle. Donc cela a commencé avec les 12 apôtres, les disciples et maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Et le troisième motivation, c'est chasser les démons. Les 12 apôtres ont reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons. Alors pourquoi chasser les démons? Tout simplement parce qu'à cette époque, la Bible n'était pas encore complète. Et vous savez, pour convaincre les Juifs qui étaient incrédules particulièrement, il fallait une démonstration par la voie des miracles. Les Juifs cherchent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Pour un Juif, il fallait un miracle pour qu'il croie. Et pour les Grecs, c'était plutôt par la voie de la sagesse, de la connaissance. Donc, pour convaincre que les apôtres parlaient avec l'autorité du Dieu Tout-Puissant, les Juifs avaient besoin de voir des miracles. Mais de nos jours, au jour d'aujourd'hui, est-ce que pour croire, les hommes ont absolument besoin de voir des miracles? Non. Pourquoi? Mais parce que nous avons la parole de Dieu dans sa totalité. Et la Bible nous demande de croire dans cette parole sans être obligé de voir des miracles. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce que nous dit Jean 20, 29. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, à cette époque-là, c'était absolument nécessaire et les apôtres avaient reçu de Jésus l'autorité de chasser les démons et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà donc les apôtres qui sont pourvus, qui sont formés, qui sont envoyés par le Seigneur. Et parmi ces apôtres, il y a un apôtre particulier qui s'appelle Judas, qu'on va étudier à part. Intéressons-nous d'abord aux 11 premiers. Les 11 premiers apôtres étaient tous galiléens. Regardez par exemple ce qui est dit en Actes chapitre 1 verset 11, si quelqu'un peut lire Actes chapitre 1 verset 11.
Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
Voilà, hommes galiléens, tous étaient galiléens. Quels sont leurs noms? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Seigneur? Alors, la Bible nous présente quatre listes des apôtres. Il y a quatre listes. Il y a Matthieu, chapitre 10, versets 2 à 4. Donc, ça, c'est une liste. La liste que nous voyons qui est sous nos yeux dans Marc, donc 3, chapitre 3, versets 16 à 19. Ensuite, Luc qui donne une liste aussi au chapitre 6, versets 13 à 16. Et il y a la même liste dans le livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 13. Et les quatre listes présentent des similitudes. Lesquelles? D'abord, Pierre, l'apôtre Pierre, est toujours cité en premier. Vous remarquerez, Pierre est toujours cité en premier. Ensuite, cette liste peut être répartie en trois groupes de quatre apôtres. Les groupes sont toujours dans le même ordre. Mais à l'intérieur du groupe, l'ordre peut changer. Mais les groupes sont toujours donnés dans le même ordre. Trois groupes de quatre apôtres chacun. Et le premier nom à l'intérieur de chaque groupe est toujours le même. Et une autre particularité aussi, c'est que Judas, autant Pierre est toujours nommé en premier, autant Judas est toujours nommé en dernier, suivi toujours de l'article « C'est lui qui livra Jésus ». Toujours. Quelles sont les autres particularités des groupes? C'est que si vous prenez le premier groupe, c'est-à-dire Pierre, André, Jacques et Jean, en fait, c'est deux paires de frères. Pierre et André sont frères, Jacques et Jean sont frères aussi. Et tous les quatre sont des pêcheurs. Et notamment, ils pêchaient dans le lac de Tibériade. Et c'est le cercle, on va dire, le commando de choc, en quelque sorte, le cercle le plus resserré autour de Jésus. Chaque fois qu'il y a eu un événement particulier, c'était toujours pris parmi ces quatre premiers disciples, ces quatre premiers apôtres. Jacques et Jean sont appelés fils du tonnerre, Boanerges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un caractère explosif. Vraiment, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible. L'apôtre Jean, qui est considéré comme l'apôtre de l'amour, de la douceur, mais en réalité, ça c'est le miracle de l'évangile, hein, du Saint-Esprit. En réalité, c'était un homme d'un caractère assez explosif. Regardez par exemple comment il réagit en Luc chapitre 9, verset 54. C'est l'apôtre Jean. Hein? Comment il va réagir? Luc 9, 54.
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous recommandions que le feu descende du ciel et les consume ?»
Voilà. Des personnes incrédules ou des personnes qui ne voulaient pas recevoir Jésus, Jacques et Jean disent, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on ordonne au feu du ciel de les consumer ?» Voilà le caractère vraiment de Jacques et Jean, fils du tonnerre, le même apôtre qui va parler de l'amour d'une manière incroyable. Comme quoi l'évangile transforme vraiment les cœurs. Ensuite, il est parlé, alors, quelqu'un qui s'appelle Thaddée. Thaddée, en réalité, il n'y a que Marc qui utilise ce mot Thaddée. Thaddée, en réalité, ailleurs, il est nommé Jude. Jude, par exemple, en Luc 6, 16, il est nommé Jude, fils de Jacques. Ou Jude, non pas l'Iscariot, en Jean chapitre 14, verset 22. Thaddée veut dire grand cœur, courageux. Et c'était disciple de Jean-Baptiste. Ensuite, il est parlé de Simon le Cananite. Alors, le Cananite, au premier abord, j'ai cru qu'il était originaire de Cana, hein, le village où Jésus a changé l'eau en vin. Mais en fait, pas du tout. J'ai regardé certains commentaires. En fait, le Cananite veut dire le zélote, celui qui est zélé, qui appartenait au parti appelé le parti des Zélotes. C'était un parti religieux, mais même patriotique, on va dire, qui défendait la loi, l'observation stricte de la loi. C'était en quelque sorte des intégristes de cette époque-là. Donc, voilà quelqu'un qui était en quelque sorte devenu un terroriste et qui après figure parmi les douze apôtres. Là aussi, le miracle de l'Esprit. Tous sont restés fidèles au Seigneur, sauf évidemment Judas. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Bon, les autres, on va juste voir rapidement ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont devenu. Donc, le CV de chacun. L'apôtre Pierre, d'abord, quel est son CV? Bon, on sait, on le connaît, on l'a même étudié au groupe d'hommes jeudi dernier. Son CV, c'est très simple, il a écrit deux épîtres. 1 et 2 Pierre. André, c'est le frère de Pierre, c'est un ancien disciple de Jean-Baptiste. Excusez-moi, j'ai confondu avec André. Thaddée n'était pas, enfin, pourquoi ce n'est pas dit qu'il était disciple de Jean-Baptiste? C'est plutôt André. André était un ancien disciple de Jean-Baptiste. Et lui, on ne sait rien de spécial à son propos. Ensuite, il y a Jacques, le frère de Jean. Alors, ne pas confondre ce Jacques apôtre avec l'autre Jacques, qui est aussi apôtre, hein, qu'on va voir un peu plus loin, qui est appelé le fils d'Alphée. Et ne pas le confondre non plus avec Jacques, le frère du Seigneur, ou demi-frère du Seigneur, celui qui a écrit l'épître de Jacques, qui était donc le responsable de l'église de Jérusalem. Enfin, un des principaux responsables, en tout cas. Ensuite, il y a... Bon, ce Jacques-là, on ne sait rien de spécial sur lui. L'apôtre Jean, on sait qu'il a écrit un évangile, trois épîtres et le livre de l'Apocalypse. Philippe, il était devenu un évangéliste et c'est aussi lui qui avait baptisé l'eunuque éthiopien. Barthélemy, on ne sait rien de spécial sur lui. Thomas est souvent... Quand on parle de Thomas, c'est souvent l'incrédule. Hein? Même dans le milieu païen, quand on parle de Thomas, moi je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Oui, mais Thomas, après, il a fini par croire. Hein? Voilà. Mais en tout cas, son CV, on ne sait rien de spécial à part ça. Matthieu, c'est le publicain, hein, donc l'ancien collecteur d'impôts, et qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Jacques, le fils d'Alphée. Rien de spécial non plus. Simon, le cananite, donc le zélote, on l'a dit tout à l'heure. Thaddée, qui n'est autre que Jude, hein, l'apôtre Jude. Alors, ne pas confondre avec Jude, l'autre demi-frère du Seigneur qui a écrit l'épître qui porte aussi son nom. Et il y a enfin Judas l'Iscariot. Alors, Judas l'Iscariot, on va s'intéresser, verset 19. Il est dit de lui Judas. Alors, l'Iscariot ou l'Iscariote. Il y a certains manuscrits qui ajoutent un E à la fin. Bon, les deux orthographes, en tout cas, vous les trouverez dans les versions bibliques. Ça veut dire tout simplement l'homme de Kériot. Et Kériot, c'était une localité de Judas. Donc, on pense, au vu de cela, on pense que Judas était originaire de la Judée. Et donc, il serait le seul apôtre qui n'était pas galiléen. Voilà, donc c'est une déduction. Ce n'est pas une certitude absolue, mais en tout cas, on peut déduire par son nom, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et d'ailleurs, son père, le père de Judas, hein, portait aussi le nom de l'Iscariot. Si vous allez dans Jean chapitre 13, verset 26, on peut le lire dans Jean 13, 26.
Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé.
Oui. Non? Oui, c'est ça, et tu peux continuer.
Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, au fils de Simon Iscariot.
Voilà. Donc, en recoupant tout ceci, on pense que Judas venait vraiment, était originaire de la Judée, il n'était pas galiléen. Mais son choix reste un mystère. Pourquoi Jésus a-t-il choisi celui dont il savait pertinemment qu'il finirait par le livrer? Un mystère. En tout cas, Judas est le type du serviteur de Dieu qui apparemment est consacré, qui fait des miracles, puisqu'il était aussi parmi les 12 hein, qui ont été envoyés par Jésus et qui a fait des miracles, mais qui, à la fin, finit par rejoindre le camp de ceux qui vont crucifier Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Quand parmi les serviteurs de Dieu, il se trouve quelqu'un qui finalement finira par trahir le Seigneur. Quand ça arrive, c'est vraiment quelque chose d'horrible, de terrible. Et là, Judas, c'est vraiment un mystère. Pourquoi a-t-il fini par trahir le Seigneur? Et une fois que le Seigneur a fait ce choix de 12 apôtres, Il va donc se rendre à la maison. Alors, quand vous voyez cette expression, Jésus se rendit à la maison, ça veut dire là où il avait l'habitude de résider, de se retrouver avec les autres, les disciples. C'était une maison qui n'était pas loin du lac de Tibériade. Voilà. Et là, il s'assembla de nouveau un groupe, une foule de personnes, à un point tel que Jésus et les disciples n'avaient pas le temps de prendre leur repas. Alors ça, c'est moi quelque chose d'incroyable. On voit comment le zèle du Seigneur peut être tellement fort, tellement puissant, que dans le ministère du service pour le Seigneur, on finit même par oublier les choses, on va dire, fondamentales de notre corps. On finit par s'oublier soi-même. Et là, c'est une goutte de trop pour la famille qui va voir dans cela un acte de fanatisme religieux. Il est devenu complètement fou. Il n'arrive même plus à trouver le temps pour prendre son repas. Un fanatique qu'il faut absolument arrêter parce qu'il est devenu complètement fou. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il est complètement fou. Et quand on lit ça, on se dit, oulala, voilà, moi, ça, c'est pas tout à fait pour moi, être taxé de fou. Mais frères et sœurs, plus à Dieu que cela vraiment soit le cas pour chacun de nous. Qu'on soit pris pour des fanatiques, des fous, si c'est pour le service de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous démontre ici. C'est notre leçon numéro 5. Soyons tous des fous de Dieu, tout feu, tout flamme, zélés pour servir notre Dieu, quand bien même les gens nous taxeraient d'être devenu complètement fou. Mais c'est une saine folie. C'est une saine folie. Parce que c'est la folie que Dieu demande. La plus horrible des folies en réalité, c'est exactement le contraire. C'est celle qui rend nos cœurs insensibles par rapport aux besoins des cœurs humains, aux besoins de que l'Évangile touche les cœurs humains. Donc, choisissons plutôt la saine folie, celle qui consiste à servir le Seigneur au lieu de se dire non, moi je veux rester dans mon petit coin, je ne vais pas servir le Seigneur, je vais être très très sage, vraiment faire ce que juste le strict minimum. Non, le Seigneur nous donne une leçon ici. Soyons tout feu, tout flamme pour lui, quitte à se faire taxer de fou. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette folie. Et la prochaine fois, nous verrons donc à partir de ce que les juifs, les chefs religieux, qui eux, ne voyaient pas en Jésus quelqu'un qui était devenu fou. Non, 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 non. Mais qui voyaient en Jésus qui était quelqu'un qui était possédé. C'est plus grave encore, qui était possédé d'un esprit malin qui était possédé de Satan lui-même. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va remercier le Seigneur pour nous avoir donné l'occasion qu'on prenne part à sa sainte folie. Si quelqu'un peut terminer par la prière.